Bonjour à tous, très heureux encore de partager ce moment avec vous, ce week-end. Je vais essayer de ne pas déborder, mais comme on a déjà débordé, le débordement risque d'être un peu plus grand encore. Hein. Mais voilà, comme ça a débordé avant moi, je serai excusé si je déborde après. Hein. Voilà, nous avons vu hier après-midi l'emplacement du camp des 12 tribus d'Israël autour du tabernacle. Ce campement sera démonté, remonté plus d'une dizaine de fois, quelques dizaines de fois durant ces 40 ans dans le désert. Mais ces 40 années dans le désert, on peut dire, seront un temps de mise à l'épreuve pour le peuple, pour cette génération qui a refusé d'écouter Josué et Caleb au retour de l'exploration du pays. Cette génération de 20 ans et plus sont condamnés à mourir dans le désert. Telle est la volonté de Dieu. D'où ces 40 ans, pour que le temps que cela se passe. Vous tous dont on a fait le dénombrement, on vous compte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. La terre promise était donc leur point de mire. Elle était attendue par ceux qui, désormais, de 19 ans et moins, savent qu'ils vont y entrer. Et ils seront bien évidemment, jusqu'à ce que les 20 ans et plus décèdent, les uns après les autres, informés, enseignés par cela. Et eux-mêmes, durant ces 40 ans, enseigneront leurs propres enfants. Quarante ans est un chiffre qui, dans la parole, revient très souvent et qui montre combien c'est souvent un temps d'attente, un temps de préparation, un temps de mise à l'épreuve dans beaucoup de situations. Et ce temps d'attente du peuple pendant ces 40 ans, eux ne savaient pas que ça allait durer 40 ans, nous le savons aujourd'hui. Mais ce temps d'attente m'a fait penser à deux passages des évangiles, de Luc en particulier, sur lesquels j'aimerais m'attarder, dans cet esprit justement, parce que nous aussi, nous attendons quelque chose. Mais nous ne savons pas si ça va durer encore 40 ans, ou moins, ou plus. Premier texte, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servit Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et un deuxième passage tiré du même évangile, mais un peu plus loin, au chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il pas à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ?» sur la terre. Vous noterez que ces deux femmes sont toutes deux veuves. Pour Anne, son veuvage, survenu, semble-t-il, très jeune, l'a poussée à se consacrer finalement entièrement à Dieu, d'où sa présence journalière au temple. Quant à la seconde, c'est une femme dont la vie est rendue difficile, certes à cause de son veuvage, mais peut-être s'est-elle ou est-elle affaiblie socialement par cette situation, que des conflits dont on ne sait rien sont sur elle. Des difficultés importantes. Mais le dénominateur commun de ces deux situations est bel et bien l'attente d'une délivrance. Attente qui se manifeste et se concrétise par la prière. En effet, pour Anne, cela nous est explicitement dit, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Et c'est ce qui faisait que son attente était forte. Tandis que pour l'autre, cela est montré implicitement, sous forme de parabole, mais laquelle est introduite par Jésus en ces mots. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Nous comprenons que la délivrance attendue par ces deux femmes sont différentes. Anne attend la délivrance à Jérusalem, dit le texte. D'autres traductions disent la rédemption de Jérusalem. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui à Jérusalem, justement, attendaient cette délivrance. La délivrance, en effet, le peuple, à ce moment-là, l'attendait. Et je veux parler de celle du joug romain qui pesait sur eux. D'ailleurs, à plusieurs reprises, le peuple voudra faire roi Jésus, voyant en lui un leader charismatique, capable d'affronter d'une part les pharisiens et certainement, d'autre part, aussi les instances romaines. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, après la résurrection de Jésus, ou le jour de la résurrection de Jésus, lui disaient à cet inconnu qui les avait rejoints et qui était Jésus lui-même, qu'ils n'avaient pas reconnu, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Mais avec tout cela, c'est-à-dire avec sa mort, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il n'y croit plus. Mais peut-on sincèrement penser qu'Anne attendait cette délivrance-là? Une délivrance politique? Je ne le pense pas. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'elle était dans une vie de piété profonde qui s'exprimait dans le jeûne et la prière, et qu'à travers cette piété, l'Esprit de Dieu ne pouvait que l'inspirer dans l'attente d'une autre délivrance spirituelle, celle-là. De plus, n'est-elle pas qualifiée comme prophétesse, ce qui signifie qu'elle avait reçu cet esprit particulier de prophétie par lequel elle va reconnaître le petit enfant lorsqu'il va arriver au temple dans les bras de Marie et accompagné de Joseph. D'ailleurs, Siméon, qui se trouve aussi dans ce même lieu, qui était venu lui aussi en particulier ce jour-là parce qu'il était inspiré, poussé par l'esprit, eh bien, parlera lui aussi. Et c'est la seconde raison qui me donne dans ce contexte de dire que Anne attend cette délivrance spirituelle. En effet, juste avant de parler d'Anne, Luc décrit cette rencontre entre Siméon et la petite famille qui arrive. Et il nous est dit de Siméon, qui lui est inspiré aussi, qu'il était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et lorsqu'il voit l'enfant, que dit Siméon ? Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Non pas salut que tu as préparé pour Israël, mais que tu as préparé pour tous les peuples. Il y a donc une universalité ici du salut qui est mentionné. Cela ne concerne pas Israël en premier, mais tous les peuples, et bien sûr y compris Israël. C'est pourquoi, fort de ces deux raisons, j'affirme que la délivrance attendue par Anne est bel et bien celle en rapport avec l'œuvre rédemptrice du petit enfant. Elle voit prophétiquement se profiler la croix, celle-là même sur laquelle la délivrance sera accomplie et sera complète. D'où son empressement à parler de Jésus à tous ceux qui, comme elle, bien sûr, attendaient la délivrance de Jérusalem. Cela rappelle un petit peu la réaction des bergers lorsqu'ils ont eu la visite des anges qui leur annonçaient la venue de Jésus-Christ et qui sont allés voir ce qui se passait. Et il est dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était dit au sujet de ce petit enfant. On ne peut que partager les choses qui sont dans notre cœur et qui sont une assurance. Et en particulier, notre attente est une assurance, celle du retour de notre Seigneur. Alors bien sûr, à la différence d'Anne, c'est que les bergers, eux, n'attendaient rien à ce moment-là lorsqu'ils reçoivent la visite des anges. Hein. Ils sont surpris. Ils n'étaient pas forcément dans une théologie messianique, je le crois pas en tout cas. Mais leur réaction est identique parce que une fois qu'ils sont convaincus et qu'ils voient les choses, alors ils en parlent aussi autour d'eux. Donc pour Anne, l'attente se passe donc, on peut dire, dans la paix, dans la tranquillité, dans une profonde assurance et certitude que ce qu'elle attend va bien évidemment arriver. Cette attitude me fait penser à ce texte d'Ésaïe qui est aussi pour nous aujourd'hui, lorsque nous sommes dans cette attente du retour de Jésus. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Malheureusement, on a pu voir dans cette période de la Covid et de tout ce qui s'est dit autour du vaccin et compagnie, je ne vais pas y en parler plus que cela, des excitations, des prises de bec même entre chrétiens. J'ai pas vu de tranquillité, j'ai pas vu de repos, j'ai pas vu de calme, j'ai pas vu de confiance dans certains milieux et dans certaines bouches de chrétiens. C'est dommage. Quelles que soient les choses qui se passent, ayons bien sûr le discernement, tâchons de l'avoir, mais en même temps, soyons dans le calme et la confiance. Tout est entre les mains de Dieu, même les petits détails qui nous dépassent, qu'on ne voit pas. Faisons confiance au Seigneur, il sait. Et l'esprit que nous avons reçu nous donne aujourd'hui d'être dans le même état d'esprit que était Anne en attendant le retour du Seigneur. Concernant... Ah, je suis un petit peu en retard là. Désolé. Voilà. Concernant la veuve de la parabole, elle attend aussi une délivrance, mais celle de son combat causé par la partie adverse, dit Jésus. Ses supplications, qui ne sont pas autre chose dans le contexte que ses prières, sont l'expression même de sa souffrance et de ses épreuves qu'elle vit au quotidien. Lorsque Jésus parle d'une partie adverse, on ne sait pas vraiment de qui il s'agit ni de quoi il en retourne dans le contexte de la parabole, dans cette histoire dont il fait mention. Mais le fait qu'elle fasse appel dans la parabole à un juge témoigne de la gravité de l'affaire. Elle ne peut pas s'en sortir sans en référer à la justice. Elle attend, elle espère sa délivrance qui va dépendre de la décision du juge. Et Jésus dit de ce dernier qu'il n'a aucune crainte de Dieu, aucun égard pour aucun homme, donc aucune compassion, et qui par conséquent sera certainement sans conscience et sans cœur dans ses décisions. C'est pas forcément le meilleur juge avec lequel on puisse traiter, mais Jésus le montre comme cela et volontairement. Ce qui au premier abord laisse entendre que cette femme, qu'il faut, pour elle en tout cas, il faut plus qu'insister, il faut lui casser la tête. Et Jésus le dit bien. Jusqu'à ce qu'il cède, parce qu'il n'a pas de compassion, parce qu'il ne craint pas Dieu, parce qu'il se moque complètement de ma situation. Donc je vais lui casser la tête jusqu'à ce qu'il en ait ras-le-bol. Et c'est ce qui se passe. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Il est à bout. Alors écoutez, dit Jésus, faites bien attention. Ce juge injuste a pourtant fini par accorder à la veuve ce qu'elle demandait. Dieu, qui est juste, miséricordieux, compatissant, fera-t-il moins pour ses élus? Entendez ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non. La réponse va de soi. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Aujourd'hui, ce temps d'attente et d'épreuve, qui paraît très long peut-être, surtout à ceux qui, comme la veuve de la parabole, souffrent et luttent, peut-être face à des injustices, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient politiques. On pense à tous ceux qui, dans des pays où ces chrétiens persécutés sont effectivement dans une injustice, où ils sont justement pourchassés et parce qu'ils sont chrétiens, eh bien, Dieu leur rappelle aussi cela, qu'il leur fera justice. Alors c'est vrai que pour eux, ça paraît long. Nous avons peut-être nous aussi des combats en France, en Europe, qui ne sont pas des combats où physiquement nous sommes en danger, mais où moralement nous sommes attaqués, où spirituellement nous sommes attaqués, et psychologiquement nous pouvons être atteints. Et nous sommes aussi peut-être en souffrance. Oui, celui qui dit « Je leur ferai promptement justice », nous le savons, pour lui, 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans. Mais il fera justice. La justice dont il est question, dans l'expression « il leur fera promptement justice », fait bien entendu référence, me semble-t-il, au tribunal de Christ, maintes fois décrit dans la parole, et qui condamnera cette partie adverse par le feu éternel. La partie adverse, c'est Satan lui-même qui détourne les âmes de la vérité par ses mensonges, qui veut même cribler les disciples pour les faire douter et chuter. Et à ce titre, nous souffrons de plusieurs manières. L'apôtre Paul a dit, alors je ne sais pas forcément très bien, je vais un peu trop loin là. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant quelque chose. Mais notre attente est d'autant plus désirée à cause des promesses extraordinaires annoncées dans l'Écriture et qui aujourd'hui, où les temps difficiles deviennent de plus en plus compliqués, prennent un poids si particulier. Et pourtant, et nous sommes dans cette promesse-là, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. C'est ce que nous attendons. C'est incroyable, n'est-ce pas, cette attente? Cette délivrance avec ses conséquences qui sont données ici dans le livre de l'Apocalypse. Cette attente, je pense à cet personnage, ce patriarche, Abraham, l'attendait déjà en son temps, lorsqu'il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, alors, je ne sais pas où j'en suis dans mon port, bon, c'est pas grave. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est une parole assez extraordinaire au moment où Abraham reçoit cet appel de quitter Charan pour aller en Canaan, enfin un pays qu'il ne connaissait pas encore. Tout autant et tout au long de son périple, il vint s'établir pour lui dans une terre étrangère et il attendait cette cité céleste qui avait de fondements solides. Quelle révélation Abraham avait-il reçue de Dieu pour pouvoir avoir cette conviction? Certes, il en avait reçu et il attendait cette cité. Sa foi, oui, a été le moteur de son obéissance, mais aussi de son attente. Et vous noterez l'expression « de la terre étrangère, dans l'expression citée aussi par l'apôtre Pierre qui nous rappelle ceci, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Nous sommes des étrangers et des forains, j'allais rappeler dans la Darby, on en parlait avec Jacques hier soir, sur la terre. Nous n'emporterons rien. Est-ce que nous en sommes convaincus? Et si nous le sommes, alors nous sommes complètement détachés de ce monde. Et nous pouvons d'autant plus, comme Anne, à travers l'esprit qui nous a été donné, focaliser notre attention sur ce royaume, ce lieu très saint dont nous parlerons cet après-midi, dans lequel Dieu nous attend pour l'éternité. Oui, se considérer comme étranger et voyageur est une manière de rester vigilant et de ne pas lâcher du regard le Seigneur Jésus et sa demeure, dans laquelle il a dit « Là où je vais, je veux que vous soyez aussi avec moi ». Pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de secret dans cette attente. Comme ces deux veuves, la recette est la même. Et c'est dans la bouche de Jésus qu'elle est rappelée en introduction de la parabole, dont je rappelle qu'il disait, qu'il donne cette parabole, montrant qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus dira à plusieurs reprises, « Veillez et priez ». Veillez, c'est discerner, c'est regarder, c'est essayer de comprendre ce qui se passe avec les données, les connaissances que nous avons de l'Écriture. Et prier, c'est pouvoir lier ces connaissances, lier ce qui vient à notre esprit et les mettre sous l'autorité du Seigneur pour qu'il nous en donne le bon discernement. L'apôtre Paul écrira aux frères de Thessalonique, « Priez sans cesse ». Alors bien sûr, cela ne signifie pas que nous allons rester ici tous les jours et toutes les heures de la journée, ni qu'à la maison on doit toujours être en prière en une situation particulière. Non, prier sans cesse, c'est être en relation et travailler cette relation quotidienne et journalière avec Dieu le plus possible. C'est ce qu'on appelle la vie de piété. Et Paul dira à Timothée, exerce-toi à la piété. Cette vie de prière, elle est en nous. Elle est là, parce que la présence de Dieu est en nous, donc je prie Dieu, je loue Dieu, j'intercède Dieu à longueur de journée. Et je suis ainsi, et je reste ainsi en communion avec lui. Et c'est comme cela que mon attente sera efficace. C'est pourquoi lorsque Jésus conclut la parabole de cette veuve, il dit et il questionne, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Et voyez qu'il y a un lien, puisque l'introduction parlait de la prière, et que la conclusion nous interroge, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais en fait, Jésus nous fait comprendre que la foi, c'est la prière, ou en tout cas la prière alimente la foi. Et dans le combat que vit cette veuve, et dans le combat que nous vivons, si nous désirons voir cette délivrance aussi, eh bien c'est aussi dans la prière et dans la foi que nous pourrons ainsi regarder ces choses-là. Et c'est, je le pense, certainement avec tristesse que Jésus interroge « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Pensons à ces temps que nous vivons depuis quelques décennies, où on a l'impression, plus que l'impression, je vous en ai parlé, je crois, au mois de juin, quand je suis venu au mois de mai sur les signes des temps, que l'apostasie est en route et elle est bien installée, elle s'installe encore plus. C'est-à-dire l'apostasie, c'est tout ce qui va à l'encontre de la foi telle qu'elle est révélée dans l'Écriture. Ces faux évangiles, etc., ces faux docteurs qui sont là partout et qui travaillent les cœurs de ceux qui sont fragile. Il passait un texte dans le vidéo qui parlait de ceux qui auront l'apparence de la piété mais qui renieront ce qui en fait la force. Cette apparence de piété se base justement sur des vérités qui ne sont pas les vérités de l'Évangile. La force, c'est la vérité de l'Évangile. La parole même du Christ que nous acceptons, que nous gardons au plus profond de notre cœur. C'est Maurice Ray qui a écrit dans un de ses livres « La prière devrait être à notre vie en Christ ce qu'est la respiration à notre vie naturelle. Nous respirons indépendamment de notre volonté, heureusement d'ailleurs, cela est également vrai de la vie de l'esprit. » Heureusement que nous ne nous concentrons pas toute la journée en disant « il faut que j'expire, il faut que j'inspire, il faut que j'expire, il faut que j'inspire ». N'est-ce pas? On ne ferait plus rien d'autre pour vivre. Eh bien, la prière, et je trouve juste ceci, a aussi cette façon naturelle, devrait avoir cette façon naturelle de nous alimenter et d'alimenter notre foi, bien évidemment. Alors, cette délivrance qu'attendaient nos deux veuves m'ont renvoyé à l'esprit de ce passage d'un psaume que nous connaissons aussi par un chant sur les « J'aime l'Éternel ». « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et il interroge « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Vous voyez cette attente aussi de ce psalmiste qui est là sous-entendue. Oui, j'attends d'entrer dans tes parvis, j'attends d'entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, j'attends cela. Mais je soupire, parce que la vie est difficile. Et ô combien je sais que vous avez, en tant que communauté, souffert ces derniers temps par des épreuves qui se sont abattues sur des membres de vos familles ici. Et malgré tout, eh bien, vous attendez, nous attendons, et c'est important d'attendre cette cité céleste. Et puis, je terminerai par cette parole de l'apôtre Pierre qui nous dit ceci et qui rejoint exactement la position de nos deux veuves, Anne et celle dont il n'est pas donné de nom. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensibles, et surtout dans la paix. Je crois que ce texte, on devrait le mettre sur notre miroir, à notre salle de bain, pour le voir tous les matins, n'est-ce pas, et le lire et l'apprendre. Nous attendons cela dans la paix, mais surtout être trouvé sans tache et irrépréhensible. Et je rappelle que hier après-midi, nous avons rappelé, et Étienne l'a bien rappelé aussi, que être irrépréhensible, c'est déjà avoir revêtu le Christ, bien évidemment, mais c'est aussi par la sanctification de chaque jour, aller se laver à la cuve des reins pour que le Seigneur purifie et continue son œuvre en nous, pour nous amener à être comme il est lui, saint, parce qu'il est parfait. Voilà, je vais terminer là et je vois que le temps est arrivé. J'ai rattrapé le retard de mon ami Étienne et je voudrais voilà terminer encore par la prière pour rappeler ces points. Seigneur Jésus, quelle espérance encore parce que tu as donné ces promesses dans l'Écriture et nous y croyons de tout notre cœur. Oui Seigneur, comme ton peuple attendait ta venue première, eh bien nous attendons cette seconde venue avec certitude, avec assurance, et Seigneur, avec patience. Oui, augmente-nous, Seigneur, la foi dans ce temps d'attente. Et pardonne-nous toutes les fois où nous sommes impatients et où nous pouvons douter même de certaines paroles de l'Écriture. Oui, Seigneur, garde-nous en ces temps troublés de nous laisser aller à des pensées qui ne seraient pas les tiennes, et particulièrement au découragement, à baisser les bras. Ô Seigneur, il y a de quoi parfois le faire, c'est vrai, mais tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, nous le croyons, Seigneur. Oui, que ton nom soit béni. Je te prie pour ceux et celles qui ce matin, peut-être à l'image de cette veuve, souffrent et réclament de ta part, Seigneur, une délivrance, quelle qu'elle soit. Seigneur, je sais que tu les entends. Je sais que tu écoutes et tu exauceras ces prières. Tu leur feras promptement justice, là en temps et en heure, certainement, mais à ta manière, Seigneur. Peut-être pas comme ils l'attendent, mais à ta manière. Et tu vas le montrer, je suis convaincu, Seigneur. Oui, merci encore pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour Jésus-Christ que nous attendons. Oui, viens bientôt, Seigneur. Amen. Amen. Amen.